je prie le texte du jour et je prêcherai sur l'épître. Matthieu 22, nous écoutons donc l'évangile maintenant. Matthieu 22, versets 15 à 21. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil afin de le prendre au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples avec des Hérodiens pour lui dire: Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par qui que ce soit, car tu ne tiens pas compte de la condition des gens. Voilà une belle entrée en matière. Ça tient un petit peu, hein. Déjà un piège quand on se fait flatter par les autres. Dis-nous donc ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César? Mais Jésus n'est pas dupe, non? On nous dit, Jésus, s'apercevant de leur malice, dit: hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi la monnaie qui sert à payer le tribut. Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit: cette effigie-là, cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondent: César. Alors il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Par ces mots, ils furent tout étonnés et le laissant, ils s'en allèrent. Nous chantons le numéro 81. Vous voulez bien? Nous chantons joyeux. On chante les 50 autres. Non, il y en a. On chantera les 4 premières. 81.
Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, grâce et paix. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, quand nous faisons mention de vous dans nos prières. Sans cesse, nous gardons le souvenir de votre foi active, de votre amour qui se met en peine, et de votre persévérante espérance qui nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Sachant bien, frères aimés de Dieu, qu'il vous a choisi. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été seulement discours, mais puissance, action de l'Esprit Saint et merveilleux accomplissement. Et c'est bien ainsi, vous le savez, que cela nous est arrivé chez vous, en votre faveur. Et vous, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, accueillant la parole en pleine détresse, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. De chez vous, en effet, la parole du Seigneur a retenti non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. Chacun raconte en parlant de nous quel accueil vous nous avez fait et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et véritable et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus, qui nous arrache à la colère à venir. Jésus, vous savez que Dieu l'a appelé, donc, celui que j'ai choisi à son baptême. Il a parlé du ciel et tout le monde a entendu. Voici celui que j'ai choisi. Et là, Paul dit aux chrétiens à Thessalonique, nous connaissons bien votre élection, c'est au verset 4. Nous connaissons bien votre élection, vous avez été choisis. On n'est pas habitué à se dire ça, qu'on est choisi par Dieu. Bien, il faut, parce que la parole de Dieu en parle souvent, de cette élection qui gouverne la façon dont Dieu gère l'histoire d'Israël, des nations et la destinée de chaque être humain. Dieu a choisi Abraham, c'est le premier dont on nous dit Dieu a choisi. Et Abraham a tenu contre vents et marées cette fidélité à Dieu. Parce qu'il était choisi. Et même quand il était infidèle, Dieu, lui, restait fidèle parce qu'il l'a choisi. Il a pu accomplir des choses que personne ne peut accomplir par soi-même. Et quand il est mort, il avait très peu de choses, alors que Dieu lui avait promis toute la terre qu'il voyait, sur laquelle il faisait paître ses moutons. Quand il est mort, il n'avait que la tombe
pour enterrer sa femme. Et après, il a été enterré dans cette tombe-là,
à Makpéla, à Hebron, lieu de pèlerinage aujourd'hui.
Il n'avait que ça, et la terre lui appartenait, et puis il ne la voyait pas. Concrètement, il n'a pas vu, mais il croyait que Dieu l'a choisi, parce que ça, c'était sûr. Les chrétiens de Thessalonique, Paul leur dit, « Nous connaissons bien votre élection. » C'est pas rien qu'un juif comme Paul dise ça à une église où il y a essentiellement des Grecs.
Et pas mal de femmes. Parce que l'histoire de l'église de Thessalonique s'est racontée dans Acte 17. Beaucoup, des femmes tellement nombreuses ont cru, notamment de la haute société de l'époque. C'est marqué dans Acte 17. Et ça s'est fait avec une émeute, cette évangélisation dans Thessalonique. Ça, les juifs, au bout d'un moment, ils étaient tellement jaloux de ce que Paul rassemblait tant de gens autour de la Bible, qu'ils ont payé des repris de justice pour créer une émeute artificielle dans la ville. Ils ont réussi à faire une émeute avec des calomnies. Et une des calomnies qu'on trouve dans Acte 17 pour exciter les autorités romaines qui sont là. Ces gens-là, Paul et Sylvain, ils étaient deux à évangéliser à Thessalonique. Ils nous enseignent qu'il y a un autre roi que César.
Oh.
Est-ce que Paul et Silas enseignaient, parce qu'on dit Silas ou Sylvain, vous savez, hein, il y a deux écritures. Paul et Silas enseignaient qu'il y a un autre roi que César. Je ne pense pas qu'ils le disaient comme ça. Mais la calomnie est intéressante parce que la calomnie, pour qu'elle soit un petit peu valable, il faut un petit peu de vérité. C'est qu'il prêchait Jésus comme roi, oui. Il prêchait que le règne de Jésus est absolument certain et qu'il va venir s'installer dans ce monde. Ça, il le prêchait, ça c'est sûr, parce qu'on le trouve dans les Épîtres. Vous voyez là déjà. Il nous dit, vous vous êtes tourné vers le Dieu vivant, véritable, pour attendre des cieux son Fils. Pour attendre des cieux son Fils. Donc il prêchait vraiment le règne de Dieu. Et il ne faisait pas que le prêcher. C'était un événement qui a secoué toute la ville. Je vous l'ai dit, il y avait des. On nous dit dans Acte 17, on pouvait. En quantité incroyable, il y a eu des femmes qui se sont associées à l'Église. Puis il y a eu des persécutions. On a traîné des gens devant les tribunaux, Jason, un dénommé Jason. Et rapidement, au bout de quelques semaines, Paul et Silas ont dû s'enfuir. Hein. Mais voilà, la parole de Dieu s'était implantée avec puissance. On ne dit pas qu'il y avait des miracles, il y a peut-être certainement aussi. Mais la puissance de la parole s'est manifestée par l'effet inouï qu'a eu cette parole à Thessalonique. Alors que l'apôtre Paul et Silas venaient de Philippe, la ville au nord, en Macédoine. Ils venaient de Philippe où ils avaient dû s'enfuir aussi, où ils avaient même été jetés en prison. La terre a tremblé, ils sont sortis de prison, le gardien de prison s'est converti avec toute sa famille. Mais ils ont vécu, ils ont été maltraités. Ils avaient des plaies, le gardien de prison a dû soigner les plaies qu'ils avaient, parce qu'ils avaient été, je ne sais pas, flagellés, ou ils avaient subi une torture. Et ils arrivent dans un état de faiblesse, vous imaginez, ils étaient encore tout juste convalescents, ils arrivent à Thessalonique. Ils n'ont pas beaucoup de force. Ils ne sont pas dans une santé resplendissante. Mais la parole de Dieu a agi. Ils sont eux-mêmes surpris, étonnés. Vous voyez, là, ça nous enseigne que quand nous avons un échec, dans notre témoignage, il peut y avoir des échecs. Une opposition qui fait qu'on doit foutre le camp, qu'on doit se taire, ou se taire, ou se cacher. Ça arrive beaucoup, dans beaucoup d'endroits. Les chrétiens doivent partir, ils voudraient rester. Combien de chrétiens doivent partir de l'Iran?
alors que c'est leur pays où ils veulent rester, mais ils doivent partir. Sinon, ils sont tués.
Il y en a à Vichy, un chrétien de l'Iran, chef d'entreprise, on lui a saccagé ses bureaux, il a dû s'enfuir pour sauver sa vie, avec sa femme, ses enfants. Donc l'échec, faut pas se dire, bon, j'arrête, parce que Dieu peut donner une grande moisson après, ailleurs. Ça s'est passé comme ça à Thessalonique, c'est pour ça que Paul dit, il y a visiblement, j'ai constaté là une élection. Dieu vous a choisi. Ça n'a pas marché tellement bien à Philippe, mais chez vous, la parole de Dieu s'est répandue. Et alors comment elle se répand? Eh bien, il y a trois qualités qu'il mentionne au verset 3. L'œuvre de votre foi, la peine de votre amour, la persévérance de votre espérance, foi, amour, espérance. Et il dit au verset 3 qu'ils viennent de Jésus-Christ. C'est pas possible qu'ils aient acquis ces qualités-là par eux-mêmes. L'œuvre de votre foi, la peine de votre amour. Français, on dit un chagrin d'amour, mais c'est pas ça. C'est que pour aimer, on se fatigue. Jésus s'est fatigué à aimer. Il s'est fatigué, il en est même mort. Il a aimé jusqu'à son dernier souffle, avec toutes les forces qu'il avait. Toutes les forces l'ont quitté, mais il a aimé. Jusqu'au bout. Et la persévérance de votre espérance. Ça, ce sont des qualités que tout le monde connaît à propos des chrétiens de Thessalonique. Cette église, elle est connue, dit Paul, jusqu'au bout de la Grèce, Macédoine, Achaïe, toutes les régions. Là, à cette époque, je crois, les Romains avaient appelé Macédoine toute la Grèce, ça s'appelait Macédoine. Aujourd'hui, c'est un petit pays au nord de la Grèce. Oui, l'élection, là, l'élection s'est exprimée. Et qu'est-ce que c'est l'élection? Si ce n'est que Dieu a prévu que cette église, elle manifesterait les qualités de Jésus-Christ. Elle manifesterait une œuvre de foi. Elle manifesterait de l'amour qui ne se décourage pas dans l'épreuve, ou dans la contradiction, ou dans l'indifférence, un amour qui continue et qui se fatigue pour aller vers les autres. Cette église manifesterait aussi une espérance qui tient bon dans la persécution. Elle tient bon parce qu'il y a la joie du Saint-Esprit en même temps. C'est écrit là dans un texte que vous avez accueilli la parole en pleine détresse, avec la joie de l'Esprit-Saint. L'élection permet des choses, se sont ouvertes à l'élection à travers la parole qui leur a été annoncée. L'élection permet des choses qui ne sont pas dans notre capacité. Et l'élection nous fait connaître notre véritable identité. Vous savez, quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui est là parmi nous m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas. Oui, je comprends. Je n'aime pas trop non plus. Enfin bref, ça n'a aucune importance. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas, paraît-il. Bon. S'ils connaissaient leur identité, ils s'aimeraient. Qu'est-ce que c'est notre identité? C'est qu'on est élu. Ah oui, mais ça ne me parle pas. Oui, d'accord, ça ne me parle pas. C'est la Bible qui le dit, je ne peux que vous le dire.
Vous existiez pour Dieu avant que votre mère et votre père vous aient conçu. Vous existiez avant. Vous étiez aimé avant. C'est ça que la Bible qui le dit. Et l'apôtre Paul ne dit pas ça que ici. Votre élection, nous la connaissons bien. L'élection donne une identité avant notre naissance et qui continue après notre mort. Cette identité, c'est d'être fils de Dieu.
Alors, quand j'étais jeune pasteur, tous les années, j'étais au synode régional. On a pas souvent des discussions petits groupes pendant le synode. On parlait de Dieu notre Père. Alors, quelqu'un dit, c'est quoi, fils de Dieu, ça veut dire quoi? Mais c'est notre identité la plus profonde. C'est d'être comme Jésus et savoir qu'on est aimé du Père comme le Père aime Jésus. C'est ça. Savoir qu'on est aimé, nous, misérables êtres humains, créatures mortelles et faibles et pécheresses, on est aimé. Le même amour dont Dieu a aimé Jésus. Jésus a dit, je vous ai aimé comme mon Père m'a aimé. Et après, à la fin, dans Jean 17, il dit que le monde sache maintenant que toi tu les aimes comme Dieu m'a aimé. Donc Dieu aime directement l'être humain qui a reçu la parole de Jésus. C'est une parole qui n'est pas un discours. Voilà. Paul dit, cette parole que nous avons annoncée chez vous là, ça n'a pas été juste des discours ou une bonne explication biblique. Non, ça a été une puissance. Parce que vous êtes né de Dieu. Le verbe naître apparaît dans notre texte trois fois. Ça n'apparaît pas dans les traductions. Alors, au verset 5, il dit deux fois, l'évangile est né chez vous. Ça paraît bizarre de dire que l'évangile est né chez vous. Parmi vous, il est né. Ça veut bien dire que l'évangile, c'est plus que des paroles. C'est l'identité de l'élection qui s'installe là dans l'Église. Elle est née chez vous. Et ensuite, il dit, toujours au verset 5, nous sommes nés chez vous, nous sommes advenus chez vous. C'est un peu compliqué de traduire nés chez vous. Paul et Silas venaient de Philippe, ils étaient dans un état assez lamentable, très faible. Peut-être craintif qu'on les persécute encore une fois, ce qui s'est d'ailleurs produit. Mais, enfin, Dieu les a ressourcés, les a fait naître à nouveau dans Thessalonique. Ils ont eu tout d'un coup cette force de l'Esprit, et la joie de l'Esprit Saint de parler de Jésus. Nous sommes nés chez vous, et la troisième fois que le verbe naître apparaît, c'est au début du verset 6. Et vous êtes né de la même façon. Vous avez accueilli la parole qui vous a fait naître dans votre véritable identité, l'identité que vous avez dans l'élection de Dieu. Il y a un garçon en Italie qui s'appelle Carlo. Il a vraiment eu un amour très fort pour Jésus dès sa première communion vers l'âge de 7 ans. Et sans rien dire à ses parents, il faisait énormément de bien autour de lui. Quand il est mort à 17 ans, ses parents ont vu une église pleine, même plein de gens à l'extérieur, à son enterrement. Il ne connaissait pas, mais il avait fait énormément de bien partout. Son argent de poche, il le gardait pour pouvoir acheter des sacs de couchage pour les sans-domicile. Et bien, ce Carlo, il a dit, nous naissons comme des originaux, toujours. Parce qu'à la naissance, nous sommes nés de Dieu. Dieu veut que nous soyons nés de lui, et nous naissons comme des originaux. Et il y en a qui meurent comme des photocopies.
Nous ne nous laissons pas imprimer par les idéologies de ce monde, par tout ce qu'on entend, par tout ce qu'on se dit soi-même aussi. Car on entend des voix qui ne sont pas de Dieu, il faut savoir discerner. Et qui nous imprime une identité qui n'est pas vraie. Nous devons laisser l'identité originale s'exprimer. Et comment on laisse l'identité originale s'exprimer? Laissant Jésus-Christ s'imprimer en nous. Parce que quand on nous dit que les chrétiens de Thessalonique ont imité Paul et Silas, ils n'ont pas imité leur caractère. Ils n'ont pas imité... on a tous un caractère différent. Ils ont imité l'œuvre de la foi, la peine de l'amour, la persévérance de l'espérance. Ce sont les qualités de Jésus qui étaient imprimées, qui étaient exprimées par les apôtres et que les chrétiens de Thessalonique ont exprimées à leur tour parce qu'ils sont nés de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est Père. Dieu est Père et donne une identité à ses enfants. C'est l'identité de son Fils, qui est roi. Rappelez-vous ce que j'ai dit, que les apôtres, on a réussi à faire une émeute pour les faire partir en les calomniant, disant qu'ils prêchaient un autre roi que César. Oui, nous prêchons un autre roi que tous les gouvernements de ce monde. C'est Jésus-Christ. Et les rois, sur la croix, une royauté, on pourrait dire, et beaucoup le pensent comme ça, une royauté de pacotille, parce qu'on a bien rigolé en lui mettant une couronne d'épines. Les soldats, ils ont dû rigoler à gorge déployée, hein, en lui mettant cette couronne dans le crâne. Mais nous n'y voyons pas une royauté de pacotille. Nous y voyons le règne éternel de Dieu. Amen.